des mots pour le dire. Dominique de Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Comment le corps est perçu dans notre monde contemporain? Comment le corps malade est appréhendé? Enfin, quel est le lien corps-âme? Comment le définir? Voilà les questions auxquelles nous tenterons, le docteur Dominique Desmichel et moi-même, de donner un éclairage dans les semaines à venir. Pour terminer notre petite histoire du corps, nous nous pencherons aujourd'hui sur notre perception contemporaine du corps. Grâce à la science, de nouveaux horizons se sont ouverts, mais les neurosciences, comme les recherches sur le transhumanisme, ne doivent pas nous faire oublier que notre rapport au corps est parfois beaucoup plus terre-à-terre qu'il n'y paraît, et en tout cas beaucoup plus complexe.
Il y a eu beaucoup d'études au cours des 5 dernières années, en France, mais surtout par l'école anglaise, montrant que vous mettez des personnes considérées comme normales devant dans des circonstances qui provoquent une émotion, et puis on les met dans une IRM cérébrale qui permet de mesurer l'activité de certaines structures cérébrales, et on regarde quelles structures s'allument, quelles structures s'activent. Eh bien, voilà la manip. Vous, dans ces auteurs ont pris des visages de personnes plutôt belles, attrayantes, et il y avait deux circonstances. Pour les gens qui étaient les témoins qui ont accepté de participer à cette expérience, cette femme, par exemple, c'était la même avant et après, mais avant, elle vous regarde bien en face, elle vous jette un regard bien doux et agréable, et puis la séquence suivante, évidemment mêlée pour des raisons scientifiques, méthodologiques, elle regarde de côté, et on compare la différence entre les deux. Puis on soustrait, c'est-à-dire évidemment, quand vous regardez un visage comme ça, vous avez plein de structures qui s'allument, mais la seule différence entre ces deux visages, c'est le fait qu'elle vous regarde et qu'elle détourne les yeux. Vous êtes d'accord? On peut aussi jouer en mettant des visages très agréables ou visages non agréables. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites ça, les gens le font en étant subconscients. Ils regardent, vous regardez ça, vous l'avez peut-être fait. Vous n'êtes pas en train de vous dire « je regarde, attends, qu'est-ce qui se passe ?» Non, non, c'est une émotion simple. Et qu'est-ce qui s'allume? Le striatum ventral. Alors, vous me direz, le striatum ventral, ça vous laisse de glace. Mais en réalité, le striatum ventral, c'est la petite structure jaune qui se trouve à la base du cerveau. C'est une toute petite partie de ces structures cérébrales qui contrôlent les émotions tout à fait à la base du cerveau. C'est des structures qui existent chez le serpent, qui existe chez les rongeurs, qui existe évidemment chez les chimpanzés. Et ça veut dire, c'est très intéressant, parce que ces structures jouent un rôle dans l'activité automatique, motrice, psychique, intellectuelle, psychique. Autrement dit, je vais être un peu agressif et provocant, l'inconscient psychique se trouve là, vous voyez. Ce qui m'amène à dire de manière un peu provocante que le subconscient est dans les noyaux gris centraux de la base, comme ce qui est absurde, parce qu'il est bien évident que c'est pas parce que ça s'allume que c'est le centre, un centre psychologique. Cette notion néolocalisationniste est absolument bête, il faut bien le dire.
C'était un extrait d'une conférence donnée par le professeur Yves Agide. Les neurosciences sont à l'origine de beaucoup d'espoir et de fantasmes. Docteur Dominique Desmichel, est-on prêt de localiser l'âme?
Je sais pas, il faudrait d'abord qu'on définisse ce que c'est que l'âme.
Mais c'est un débat, ça, chez les scientifiques, hein, non? Parce que c'est que l'âme, mais est-ce que l'âme a, est-ce qu'on peut localiser l'âme, quoi?
Je pense que l'âme, c'est un mot qui a d'abord et avant tout un contenu métaphysique. Donc si on est dans la métaphysique, on est au-delà de la physique, donc on n'est pas dans la physique.
Oui, mais on l'entend, vous avez bien entendu. Alors voilà la manip, tac, tac, ouais. Ça s'allume, on a l'impression d'être sur une carte pour les touristes où il y a des petites lumières qui s'allument.
Oui, oui, mais on a le droit de penser que la relation amoureuse est déterminée uniquement par des neuromédiateurs et que, voilà, ou que si la voix de Brigitte Bardot, ça vous fait des petites choses derrière la braguette, c'est uniquement une histoire de neuromédiateurs. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est probablement un peu plus compliqué parce qu'il y a une finalité qui renvoie à une complexité qui n'est ne peut pas être réductible simplement à une histoire de neuromédiateur. Ce qui est important dans cette expérience, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que la quasi-totalité des informations qui transitent à l'intérieur de notre corps, que ce soit des informations du style le sens de position, la position de votre orteil gauche là qui est un petit peu coincé parce que votre chaussette s'est glissée entre le premier orteil et le deuxième orteil ou que votre chaussure est un petit peu serrée, jusqu'à l'émotion que vous ressentez quand vous entendez une musique qui vous touche, tout ça, ça passe par en effet les noyaux gris centraux de la base. Noyau gris, ça veut dire quoi? Dans le cerveau, il y a deux types de cellules, deux types de structures. Il y a les noyaux des neurones et puis il y a les câbles. Les câbles, c'est du blanc. Quand on coupe un cerveau, voilà, tout ce qui est noyau, c'est-à-dire le noyau des cellules, c'est en gris et puis les câblages, c'est en blanc. Donc ces noyaux gris, c'est là où ça pense et où ça réfléchit, le reste, c'est du câble. Ces noyaux gris centraux, c'est-à-dire à l'intérieur du cerveau, il y en a à plusieurs endroits, il y en a qui interviennent dans les automatismes et qui sont malades par exemple dans la maladie de Parkinson, et puis il y a une petite structure qui est à la base du cerveau, hein, tout à fait en bas, qui est ce qu'on appelle le cerveau limbique, dans lequel il y a en effet ce qui a été dit, le striatum ventral, mais aussi l'amygdale cérébrale, parce qu'il y a aussi une amygdale cérébelleuse. Il y a aussi l'hippocampe. L'hippocampe, c'est un petit truc qui ressemble un petit peu à l'hippocampe quand on le découpe, donc c'est pour ça le petit poisson, là, vous savez, là. C'est pas un poisson, mais enfin, vous voyez ce que c'est. L'hippocampe, et tout transite par là. C'est-à-dire, tout ce qu'on reçoit, ça passe de manière, évidemment, ultra rapide, ça passe par ce cerveau des émotions. Voilà, on est dans un studio. Si quelqu'un frappe à la porte là, dans la minute qui suit, par exemple, eh bien, on va être surpris. Mais en même temps, on va s'adapter. Par exemple, si je pousse un cri extrêmement strident, vos auditeurs vont être surpris. Puis voilà, puis si j'explique ça, et puis si dans 2 minutes, je repousse un deuxième cri strident, vos auditeurs vont dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis si je repose un cri strident dans 15 minutes, ça ne va rien faire aux gens. Parce que ça va être passé par le cerveau des émotions, et le cerveau des émotions va réguler. La première, c'est on frappe à la porte, tiens, ça va déranger l'enregistrement, ou la personne qui parle dans le micro ici, que j'écoute à la radio, pousse un cri, ça me surprend, la deuxième, je m'habitue, puis la troisième, je reste très très calme. Donc ce noyau-là, central, régule toutes les émotions. Donc ça dit bien que l'essentiel de nos actes est déterminé par cette petite structure, cette structure limbique, hein, voilà, qui est le cerveau le plus archaïque, le plus ancien. On appelle ça le cerveau reptilien, et Agide, là, il disait, ça existe chez les serpents, etc. Voilà, vous savez, les sauriens, hein, ça date d'il y a très très longtemps.
Mais alors, pourra-t-on un jour tout expliquer par le cerveau, c'est-à-dire tomber amoureux? On pourra, dans ce cas-là, le prévoir, pourquoi pas, parce que si on sait qu'on a des connexions...
Non,
on est sur un autre domaine.
Oui, parce que la science... elle explique le comment ça se passe. Donc vous, là, vous êtes en face de moi, vous avez votre casque sur les oreilles, vous écoutez, vous avez vos petites manettes, vous savez faire tout ça. Et on peut expliquer comment, à partir du moment où vous allez commencer l'émission, vous allez savoir, vous avez appris et vous savez mettre en scène les petites manettes, des tas de trucs auxquels je ne comprends rien du tout, mais que vous savez faire. On sait comment ça se passe. Mais le pourquoi, ça ne relève pas de la science.
Alors, comme très souvent dans la science, plus on avance, plus ça se complexifie. Ouais. Avec la découverte des avancées dans la neuroscience, c'est encore d'autres horizons qui s'ouvrent par rapport à notre perception du corps. Dans la conférence que vous avez écrite pour préparer cette émission, un corps parcellaire, un corps flou, on a du mal à appréhender son propre corps, du coup.
Oui, je crois que ça, c'est important de revenir à comment on perçoit notre corps. On ne sait pas très très bien à quoi il ressemble. Il n'est pas facile de percevoir notre corps dans sa globalité. Hein.
Entre les bactéries, le cerveau, enfin, voilà. Ça paraît totalement fou, quoi.
Oui, tout à fait. Et puis, je pense que l'autre élément, c'est que dans la majorité, ou pour la majorité d'entre nous, eh ben, on ne s'en préoccupe pas beaucoup, parce qu'en fait, ça fonctionne. Donc, on vit, on a des émotions, on a des désirs, on a des bonheurs, on a des peines, on a des chagrins. Et le plus souvent, c'est le corps qui se rappelle à nous plus que nous qui nous penchons sur lui. Hein. Je crois d'ailleurs que ça exprime bien cette sorte de dualité. C'est-à-dire le corps, il est avant tout pour nous un instrument qui nous permet d'entrer en relation et d'avoir du bonheur et du malheur, d'avoir des attentes, d'avoir des chagrins, etc. Donc je crois que dans notre vie quotidienne, le corps a finalement peu de place autrement que comme l'instrument de nos actions, le réceptacle de notre plaisir ou de notre souffrance. Hein, on a un corps de jouissance et un corps de souffrance. Et que finalement, au fil de nos jours ordinaires, le cadre détermine ce que notre corps fait. Voilà, ce matin, ou cet après-midi, ou depuis ce matin en tout cas, vous vous êtes levé, vous avez déjeuné, vous êtes brossé les dents, peut-être vous avez pris une douche, vous êtes allé à la selle, vous avez fait pipi, vous avez fait caca, vous avez senti, vous avez goûté, vous avez reniflé, vous avez écouté. Et tous ces rituels vont structurer notre journée, je parle bien évidemment du côté du corps, avec notre parole, avec le fait qu'on chante, qu'on rit, qu'on goûte, mais qu'on fait ça de manière très très répétitive. Et quand on pense au corps de ceux qui nous entourent, il en est de même. Finalement, on s'occupe du corps de nos enfants, mais dans un cadre très très normé, le même cadre qu'avec soi-même, un petit peu plus pour les enfants, on va les peser, on va les mesurer, on va s'occuper de leur vaccination, on va leur dire tiens, viens pour te moucher, on va aller chez le médecin, il y a les petits bobos comme ça, mais globalement, le corps, il a son autonomie.
Et on a le sentiment que dans notre société contemporaine, notre corps, il est un peu pris dans un carcan, on est obligé de rester assis à un bureau toute la journée, la voiture nous oblige à des positions qui ne sont pas naturelles.
Oui, tout à fait. Et en même temps, le corps, il a ses contraintes, hein. Il a ses contraintes et il a ses demandes, hein. Voilà, si par exemple, avant cette émission, vous aviez la vessie pleine, j'imagine que depuis un certain temps, vous commencez à vous dire « Bon, dès qu'on fait une petite pause, je vais faire un petit tour aux toilettes, hein. » L'exigence de la vessie pleine, c'est une exigence extrêmement, extrêmement forte. Alors les hommes, ils ont quelques facilités, parce que parfois un tronc d'arbre, ça leur suffit. Les dames, c'est plus difficile. Et puis quand vous avez envie d'aller à la selle, alors je prends des petits détails, mais un peu sordides peut-être, mais le corps, c'est aussi ça. Hein. Voilà, quand on a envie d'aller à la selle, il faut y aller. Hein. Et il y a des gens qui disent, on fait une pause, vous arrêtez parce que il faut que j'y aille.
Et là on a encore une différence, on en avait parlé dans la toute première émission, oui. Entre l'Orient et l'Occident sur cette perception du corps. En chinois, les fesses, c'est le noble séant, c'est ça, hein, c'est un endroit très noble du corps humain, alors qu'en Occident, on a plus de mal à en parler.
Alors ça, on pourra y revenir, hein, mais vous l'introduisez, donc allons-y. La perception symbolique du corps est très très marquée aussi par une forme de dualisme. Ce dualisme du corps, il est marqué par cette séparation que, on pourrait dire, le diaphragme pose. Le diaphragme, c'est, vous savez, cette espèce d'immense muscle-là qui nous coupe en deux, qui est très haut situé, qui est en gros à hauteur des mamelons, hein, à peu près, et qui se contracte quand on inspire et qui se relâche quand on expire, en quelque sorte. Hein. Et, de manière un petit peu schématique, au-dessus du diaphragme, il y a tout ce qui est noble. Il y a le cœur c'est noble, les poumons c'est noble, et puis il y a la majorité des organes des sens, hein, la vue, le goût, l'odorat et l'audition. Et puis en dessous, c'est déjà beaucoup moins noble. Pourquoi ? Parce qu'il y a pipi, caca, zizi, hein, c'est-à-dire les choses qui sont quand même, même à la radio, il ne faut pas rentrer trop dans les détails quand même. Ça va faire rigoler un tout petit peu, mais parfois dans une forme de rire un petit peu défensif, on ne parle pas trop de ça. Hein. Voilà. Et en même temps, il y a aussi toutes les civilités. Par exemple, quand vous, la semaine dernière, vous avez vos invités qui étaient là, ils venaient pour la première fois, et puis, vous leur dites « Ah, les toilettes, c'est juste derrière, là, vous prenez le couloir, et puis deuxième petite porte sur la gauche. » Ou alors, ils repèrent, voilà, ou vous avez, il y a un vieux monsieur qui vient et qui est votre invité, vous savez qu'à partir d'un certain âge, voilà, la prostate fait qu'on va uriner un petit peu plus souvent, et puis gentiment, vous dites « Les toilettes, c'est juste là. Hein. » Donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, bien penser ce corps avec tout ce qui est au-dessus du diaphragme, c'est super. Puis tout ce qui est en dessous, c'est moins bien. Repensez par exemple aux histoires des pets. Voilà. Bon, l'épée, c'est pas rien, l'épée. Hein.
On parle pas d'escrime, hein, je vous rassure.
Non. Voilà, c'est le petit pet, ça fait un prout. Voilà. Alors tout le monde fait entre 5 et 30 pets par jour, ça c'est normal. Mais il y a ceux qui sentent. Hein. Alors, vous connaissez cette phrase célèbre d'un grand écrivain que je nommerai pas, qui venait dans une grande réception de faire un P avec une grande odeur. Alors, vous voyez que je parle de choses absolument pas sérieuses dans une émission et une station de radio pourtant tout à fait sérieuse. Et alors, cet homme, évidemment, ça commence à sentir partout, se penche sur sa voisine et lui dit « Ne vous inquiétez pas, je dirai que c'est moi ». Voilà. Et donc, on voit bien que il y a quelque chose qui se joue ici dans l'incongruité, l'indécence. C'est tout à fait inadmissible d'avoir, voilà. Et pourtant, tout le monde pète et tout le monde fait des pets qui ont des odeurs de temps en temps. Il y a ce rapport au corps qui est complexe. On pourrait dire la même chose, par exemple, de l'odorat. Dans notre société, l'odeur, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Si quelqu'un vient, rentre dans une pièce et qu'on sent son odeur, on va dire il pourrait se laver quand même. Tiens, il n'a pas pris de douche depuis combien de temps? Ou alors, une phrase un peu plus, les déodorants, ça existe, c'est quand même pas pour les autres, à quoi ça sert? Enfin, vous voyez? Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'odorat, de l'odeur, qui n'est pas acceptable par la majorité des gens. Pourtant, l'odeur, ça c'est Dolto qui dit ça, l'odeur c'est l'inceste, c'est-à-dire c'est le rapport le plus premier au corps de l'autre.
Tu as créé de la vie, David. La première forme de vie non biologique. Tu te rends compte du prix que l'industrie des hubots serait prête à payer pour ça?
Ce n'est pas pour moi que je l'ai fait, mais pour mes enfants.
Votre contrat vous donne droit à un clone numérique.
Papa.
Là-dedans, il y a tous vos clones numériques. J'ai pris soin d'y mettre aussi la seule copie existante du code. C'est-à-dire votre âme. Mais j'ai supprimé la dernière séquence. Sans elle, le code ne marche pas.
Le point de singularité, vous connaissez? C'est le moment prédit par les scientifiques tenants de la transhumanie où l'homme va fabriquer un nouvel homme. Le cyborg, l'homme augmenté. Le verrons-nous face à face, celui qui aura des capacités tellement supérieures que nous serons tous ravalés à l'état de sous-humains, d'homo sapiens basiques et sans grand intérêt, promis même, on le verra, à mourir peut-être d'ennui, de solitude et de détresse. Bon, la question est posée. C'est de l'ordre du fantasme. Mais déjà, l'idée qu'on puisse fabriquer un homme de toutes pièces, grâce à la technologie, changeant dans notre propre nature humaine, fait des dégâts. Dégâts culturels, dégâts collatéraux assez lourds de conséquences. Et il faut que nous ayons conscience de cette guerre anthropologique qui, au fond, voit s'affronter une humanité fragile, vulnérable, interdépendante, dans l'altruisme, mortelle, limitée, sexuée, à ce cyborg, cet être fabriqué de volonté d'homme par orgueil pour dominer et qui risque, effectivement, de faire advenir une forme de totalitarisme que l'on peut dénoncer.
Vous avez pu entendre dans cet extrait en deux parties une première sur la série qui est passée sur Arte il y a quelques mois, Real Human, qui met en scène des robots, des cyborgs, suivi d'un clip d'Alliance Vita qui propose tout à fait le contraire, c'est-à-dire qui met en garde contre cette vision du transhumanisme. On sait que Google finance aujourd'hui une université aux États-Unis pour travailler sur ces questions-là. Docteur Dominique Desmichel, c'est un sujet d'actualité, ça. On en parle beaucoup en ce moment. Ça fait peur et ça fait rêver.
Il y a deux choses. Je vais revenir à des choses extrêmement concrètes, puisque moi, je suis aussi médecin généraliste, et qu'on peut, en tout cas, se dire, parce que dans une certaine mesure, ça existe déjà, qu'un ordinateur qui contiendrait une quantité infinie d'informations pourrait avoir et faire un diagnostic et proposer un traitement beaucoup plus pertinent que celui que le médecin généraliste ou que le spécialiste connaît. Hein. Par exemple, actuellement, même dans une spécialité particulière, on va dire, mettons, en cancérologie, le cancer du pancréas, quelqu'un qui ne serait que spécialiste du cancer du pancréas, ne peut pas lire toute la littérature qui paraît là-dessus. Donc, on pourrait très bien imaginer, en effet, qu'il y ait un ordinateur qui lise au fur et à mesure, comprenne au fur et à mesure tout ce qui est publié là-dessus et propose, lorsque le diagnostic est fait, un traitement qui tient compte des dernières données. On peut très bien aussi imaginer que pour le diagnostic d'une maladie, les médecins généralistes aient en quelque sorte un IRM ou un appareil à échographie chez eux en permanence, et que quand les patients viennent chez eux, eh bien, ils passent dans une machine. Presque, voilà, ils s'adressent au secrétariat, ils ont tel symptôme. Monsieur, madame, vous relevez de ça. Juste avant de voir le docteur, vous allez passer dans l'appareil. Hop, ça va durer quelques secondes. Échographie, IRM ou autre chose, ou scanner. Et puis, l'ordinateur va faire un diagnostic très précis. Et puis, du coup, voilà, peut-être à la fin, l'ordinateur répondra. Monsieur, compte tenu ou madame, compte tenu, a priori, c'est une gastro-entérite virale. Vous reprendrez à la sortie l'ordonnance type. Il n'y a pas besoin de voir le médecin parce que le diagnostic est précis. N'oubliez pas de glisser votre carte bancaire à la fin pour le règlement.
Surtout ne pas oublier.
Voilà, surtout ne pas oublier. Et actuellement, il existe par exemple des appareils qui font un électrocardiogramme et qui vous donnent une interprétation très très complète.
Oui, évidemment, on y est totalement dans ce transhumanisme. Et pourtant, ça réveille des frayeurs qui sont compréhensibles en même temps.
Oui, parce que ça réduit par exemple la question du soin au corps-objet. Or, le soin, c'est d'abord et avant tout une relation. C'est un lien. Et pour une gastro-entérite, avoir quelqu'un qui vous palpe le ventre, qui vous pose des questions, qui vous dit « Et alors, comment ça se passe pour votre travail ?» Et « Oui, mais docteur, vous savez, compte tenu de la charge de travail, vous mettez un arrêt de travail le minimum. » Ou alors « Moi, de toute façon, je suis complètement épuisé. La gastro-entérite, de toute façon, c'est le témoin d'un burn-out complet à mon travail. » C'est-à-dire toute la partie psychique, ben votre IRM ou votre scanner ou votre échographie, il ne va pas regarder ça. Hein. Donc, dans une espèce de déshumanisation, en effet, et du diagnostic et du traitement, il y a quelque chose qui est assez terrifiant et on comprend bien la remarque de la personne.
D'Alliance Vita, oui. Ouais. Alors, on en arrive justement à ce corps. On en a parlé depuis le début comme un corps en bonne santé, mais il y a forcément, évidemment, un moment donné où le corps entre dans la maladie. Et là, c'est toute notre perception qui change. C'est tout ce qu'on pensait qui s'écroule quelque part.
Alors, il y a les petites maladies qui sont brèves. Hein, voilà, en ce moment, il y a des épidémies de gastro-entérite, il y a des épidémies de grippe. Et puis, bon, chacun, en gros, va bien avec. Hein, de temps en temps, les gens disent... ça fait longtemps que je n'avais pas eu la grippe. Allez, pendant 3 jours, j'étais au lit avec 39,5 et puis, bon, et puis ça passe. Et puis, de temps en temps, il y a autre chose qui se passe et on s'interroge. Est-ce que, finalement, parce que je suis fatigué depuis un certain temps, est-ce qu'il ne faut pas que je m'interroge? Et puis, de temps en temps, des petites choses. Là, j'ai la tête qui me gratte depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? On peut s'interroger aussi sur... Il y a quelque chose qui se joue dans mon ventre, il y a quelque chose qui se joue dans ma tête. Il y a des perceptions un tout petit peu bizarres. Et on s'inquiète. Et puis, de temps en temps aussi, c'est une succession de choses. Tiens, lundi, je me suis blessé à la main. Mardi, je me suis blessé au pied. Mercredi, j'avais très mal au dos. Et puis aujourd'hui, on est jeudi, et puis il se passe encore quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et dans un certain moment, c'est ou la répétition, ou la pérennité, ou la succession des choses. Et on se dit, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'il y a une sorte de synchronicité un peu énigmatique? Et puis, parfois, il y a une douleur qui dure, il y a une fatigue qui s'installe, il y a une fièvre qui traîne, il y a une diarrhée qui dure. Et puis, un jour, on monte sur la balance, on a perdu 3 kilos, on a un petit saignement, on a une boule quelque part dans le sein pour une femme, et cela rompt, au fond, cette sorte d'unité silencieuse et largement inconsciente entre nous et notre corps.
Confiance aussi, on se sent trahi quelque part.
Et de confiance.
Trahi par son corps, on dit, voilà. C'est une expression.
Ce qu'on demande au corps, c'est d'être silencieux, d'être efficace. Et pour la majorité d'entre nous, la bonne santé, c'est le silence des organes. C'est-à-dire, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, je mange, je bois, je dors, je vais à la selle, je
bouge. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faudrait, même quand on est en bonne santé, interroger son corps tout le temps? Parce que c'est aussi quelque chose qu'on voit dans notre perception contemporaine. On va faire des régimes à base de je ne sais pas quoi pour le moindre coup de fatigue. On interroge son corps plus, de manière plus pertinente aujourd'hui qu'avant?
Le rapport au corps est en effet probablement en train de changer, mais je ne suis pas sûr qu'il change profondément dans le sens de cette parole nietzschéenne, c'est-à-dire le corps que je suis et non pas le corps que j'ai. C'est-à-dire très souvent on entretient son corps parce que on a entendu à la radio, on a vu à la télévision qu'il fallait faire comme ça. Donc que c'était mieux de ne pas manger des choses grasses, qu'il fallait manger des fruits et des légumes, que le régime méditerranéen c'était idéal pour vivre vieux et surtout pour vivre bien, qu'il était bon de bouger son corps et d'avoir une activité physique. Et tout ça, c'est vrai. Ça augmente non seulement l'espérance de vie, mais aussi la qualité de vie. Et on sait par exemple que l'hypertension artérielle, hein, qui donne beaucoup de dégâts, hein, quand même. L'hypertension artérielle, c'est peut-être avant tout une maladie de la sédentarisation. C'est-à-dire on ne bouge plus, on ne fait plus d'efforts. Même pour aller faire ses courses, voilà, on prend la voiture, on monte ça, donc c'est très très limité. Donc il y a quelque chose dans le rapport au corps qui change. Mais je pense que dans la grande majorité des cas, cela confirme le corps comme objet. On va chercher une ordonnance, que ça soit l'ordonnance des mange bien, prends des fibres, etc. C'est-à-dire une mise en ordre extérieure qui s'impose, ou que ça soit l'ordonnance du médecin qui va dire on prend tel ou tel cachet. On sait bien que les cachets, c'est souvent fait pour cacher, hein, et pas pour accompagner. Hein, voilà. Donc, je pense actuellement que même s'il y a une nouvelle approche du corps, avec quelque chose qui est plus tourné vers une attention particulière au corps, je ne suis pas très très sûr que cette relation de complicité et d'attention particulière au message du corps soit en train de changer très profondément. On est attentif au corps, mais dans le sens d'un objet précieux qu'il faut soigner, mais encore d'un objet extérieur.
Nous arrivons au terme de cette émission, de notre petite histoire du corps. Pour terminer en quelques minutes, docteur Dominique Desmichel, quelle est selon vous la bonne attitude à avoir avec son corps? Quel est le bon rapport à avoir?
Je pense que cette relation, elle est quand même d'abord et avant tout personnelle. Mais ce qui me semble, c'est qu'il y a lieu de penser le corps d'abord comme quelque chose, donc du côté de la chose, extrêmement précieuse dont il faut prendre soin, que ce corps il peut de temps en temps se plaindre, et que cette plainte, on peut partir du principe qu'elle a un sens et que probablement en effet c'est ce qui va ouvrir aux émissions d'après, c'est-à-dire de se dire est-ce qu'au fond quand on est malade, pas la petite chose qui ne va pas durer et qui va guérir toute seule. Hein. Je rappelle cette phrase de Canguilhem, qui est un grand philosophe qui a beaucoup travaillé sur la santé. Hein. Il disait « Être malade, être en bonne santé, ce n'est pas ne jamais être malade. Être en bonne santé, disait-il, c'est pouvoir être malade et revenir à l'état antérieur. C'est-à-dire, de temps en temps, on a un petit truc, on a la grippe, on a un rhume, on a un petit bouton, on se blesse, on a une gastro-entérite, voilà. Ça fait partie des choses courantes. Mais on est en bonne santé parce qu'on peut guérir tout seul, la médecine intervenant quasi pour rien du tout dans le processus de guérison, juste pour les petits conseils, les petites choses comme ça. Donc, je crois que le lien à son corps, moi, je proposerais de le percevoir comme le corps, c'est ce que je suis aussi. Comment je peux réfléchir sur ce qui arrive dans mon corps à partir du moment où, peut-être, le corps et l'âme, ça serait exactement la même chose.
Ainsi s'achève notre émission des mots pour le dire. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel et nous nous retrouvons dans 15 jours pour poursuivre notre réflexion. D'ici là, portez-vous bien à l'écoute de Radio Grand Ciel.